voix nue. Cette semaine, Pauline Chanu rencontre Pierre Rabhi. Ce soir, l'appel à l'insurrection des consciences.
Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Vous êtes paysan, philosophe et écrivain. Vous avez fondé une ferme pionnière en agroécologie dans les Cévennes au début des années 60. Hier, nous avons parlé de l'exportation de ce modèle un peu partout dans le monde. Un modèle qui, selon vous, pourrait réduire les inégalités entre pays du Nord et pays du Sud. Un modèle qui pourrait assurer la sécurité alimentaire et réduire notre empreinte environnementale. Ce soir, nous allons définir ce que vous appelez l'insurrection des consciences et poser avec vous la question de l'engagement et de la responsabilité. Dans la fable du colibri que vous utilisez souvent et dont nous avons déjà parlé cette semaine, vous dites combien il est important que chacun fasse sa part. J'aimerais lire un extrait du Sahara aux Cévennes qui est votre autobiographie. Il ne sert à rien de discourir sur la manière dont va couler le bateau. Seul importe la passion et même l'enthousiasme avec lesquels écoperont et répareront les brèches, même en grand débordement, ceux qui n'ont ni peur de vivre, ni peur de mourir.
Oui.
Pourquoi c'est pas grave que le bateau coule? Pourquoi c'est pas ça qui compte?
C'est-à-dire que nous sommes dans une société, effectivement, où on a l'impression qu'on ne maîtrise absolument pas notre histoire. C'est-à-dire que l'être humain semble vouloir déterminer son histoire, mais il est de plus en plus déterminé par un cadre et une logique qu'il prend en otage et qu'il conduit. Et on revient à la formule, on ne sait pas où on va, mais on y va. Voilà. En quelque sorte, on sent presque une impuissance à orienter l'histoire.
Oui, c'est intéressant que vous parliez d'impuissance parce que justement, c'est la question que je me pose. En 60 ans, l'urgence, elle n'est plus la même. Aujourd'hui, on vit les conséquences de la catastrophe écologique en cours, on la ressent. Est-ce que votre discours a évolué? Est-ce que ça suffit aujourd'hui de dire « chacun doit faire sa part » ?
Ça ne suffit peut-être pas, mais vous savez, chacun est réduit à là où j'en suis. Moi, aujourd'hui, je suis bien obligé de sauvegarder mes convictions. Mes convictions sont qu'il faut que l'humanité change. On ne peut pas continuer avec une humanité qui s'entretue, qui consacre des budgets colossaux à comment tuer les autres, à comment s'entretuer, etc. On est dans une planète complètement folle, quoi. Une humanité qui est folle. Et donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne comprend pas une chose très simple, c'est que si on instaure la paix, on va faire des économies considérables en armement, par exemple. Or, les budgets sont colossaux. À côté de ça, on a aussi des programmes pour aller vers la Lune, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous sommes en état de naufrage. Et dans cet état de naufrage, ça appelle quand même aujourd'hui à l'urgence, à des urgences autres que simplement cet amusement et ce divertissement dans lequel nous sommes plongés pour oublier finalement la situation tragique dans laquelle nous sommes.
Mais est-ce que ça passe uniquement par la transformation de soi? Et quand on parle de ce que chacun doit faire sa part, est-ce qu'on ne déplace pas la responsabilité? Est-ce que vous ne dédouanez pas celle des décideurs, des chefs d'État, des industriels? Est-ce que, en responsabilisant l'individu, est-ce qu'on ne déplace pas les responsabilités?
Non, il y a deux modes de gestion politique. Il y a les dictatures. On ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent, on installe la dictature et puis c'est fini, on ne discute pas. Et de l'autre côté, il y a le suffrage universel qui invite chaque individu à se prononcer. C'est la responsabilité de chacun de nous d'avoir intronisé des gens non évolués et qui sont parfois tragiquement stupides pour finalement gérer la société.
Vous êtes arrivé en 1961 dans les Cévennes, vous avez fondé votre ferme écologique. À quel moment vous prenez conscience de la catastrophe écologique en cours et à quel moment vous vous dites qu'il est important que vous portiez, vous, un discours sur la nature, un discours écologique?
Ce qui m'a incité à quitter, disons, cette logique-là, c'est déjà une critique radicale du système, du toujours plus, de la croissance économique, de toutes ces choses-là. Et en même temps, c'était pas simplement des théories. Ayant été ouvrier, tout ça, ça a été des lieux d'observation très intéressants sur la condition humaine.
Est-ce que votre insurrection, elle est politique?
Non, moi je n'ai jamais été ni de gauche ni de droite, ni de. Je pense que tout ça, moi je respecte les gens dans leur choix politique, mais je pense que c'est. Moi je m'intéressais à la politique de l'humanité et non pas à la politique partisane qui reste extrêmement limitée et qui finalement crée plus de dissensions et de divisions qu'elle ne crée d'unité et d'harmonie.
Vous votez?
En tant que citoyen, je veux participer à ce suffrage, mais il faut dire que depuis longtemps, je ne sais vraiment pas pour qui voter ouvertement, quoi. Et je m'en tiens simplement à dire qu'il faut quand même accomplir ce suffrage universel parce qu'il ne faudrait pas que les idées extrémistes que je récuse puissent prendre le pouvoir. Mais c'est pas de tout cœur pour quelqu'un en disant ah, celui-là, c'est formidable. Non.
Justement, vous avez assisté depuis le début des années 70 à la naissance de l'écologie politique. Je pense notamment à René Dumont, qui a été le premier écologiste à se présenter à une élection présidentielle en 1974. Je crois que vous l'avez même rencontré. Est-ce que vous croyez à une forme d'écologie politique?
Non, l'écologie, c'est une conscience ou rien du tout. Voilà. Si c'est pas une conscience, c'est rien. Voilà. Nous sommes de l'eau, nous sommes de la terre, nous sommes tout cela, nous sommes l'air, nous sommes. Et ce qui est essentiel, on le met comme une question subsidiaire. Après les querelles stériles entre la gauche, la droite, ceci et cela, voilà, l'écologie, comme si. Mais l'écologie, c'est la vie elle-même. Nous ne serions même pas en train de nous quereller de droite ou gauche s'il n'y avait pas la nature qui nous a donné vie pour qu'on fasse des stupidités pareilles. Donc l'écologie, ça doit être une conscience, ça doit pas être un, ça doit pas être, que l'on utilise l'écologie politique parce qu'il faut peut-être passer par là pour arriver à une autre conscience. Mais l'écologie, ça doit être enseigné aux enfants dès tout petits, dès qu'ils peuvent comprendre. La nature, tu sais, c'est très important. C'est grâce à la nature, grâce à la terre, grâce à tout ça que tu arrives à tout et même à survivre. Là, ça serait plus réaliste. Voilà. Et connecter l'enfant dès tout petit à cette réalité vivante à laquelle il doit la vie. Eh bien, là, je pourrais commencer à dire, tiens, il y a une évolution positive. Sinon, on continue à faire de l'écologie un alibi, encore de querelles politiques, c'est stupide, quoi.
Pierre Rabhi, vous vivez dans cette ferme de Montchamp, dans les Cévennes ardéchoises, depuis 60 ans maintenant. Et comment vous la sentez, la disparition du vivant? Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous la voyez?
Et comment? Et j'en souffre énormément. Énormément, parce que je trouve que. Même nous, depuis que nous sommes installés en Cévennes, donc dans notre ferme, on a vu disparaître là des tas d'oiseaux, d'insectes, de vraiment, réellement, dès le départ. Même un truc tout à fait peut-être banal, bah, des escargots, il y en avait plein, et maintenant il faut les chercher. Donc il y a une évolution négative dans l'extinction. Sournoise et graduelle des espèces et des variétés dans une ignorance et une indifférence qui est absolument tragique.
Vous dites que vous n'avez jamais levé le poing, que vous n'avez jamais pris part à une manifestation. Pourquoi refuser de manifester? Et qu'est-ce que vous pensez des mouvements de désobéissance civile, des mouvements citoyens, d'occupation de lieux comme Notre-Dame-des-Landes, le plateau du Larzac plus tôt? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous soutenez ces mouvements?
Moi, je pense que chacun s'exprime, s'ils veulent aller dans la rue, lever le poing, moi, je n'ai rien à dire. Je veux dire, ils peuvent bien exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer à leur façon. Mais il faut pas que j'aille lever le poing contre ceci, cela, et je rentre chez moi et je pourris la vie de ceux qui sont m'entourent. Si je veux un changement de société, le changement de société, je ne le demande pas simplement à la société, mais je le demande à moi-même. Et si moi, je ne change pas, je vais transposer ce qui a été l'objet de ma protestation dans mon microcosme. Donc il faut que je parte. Si je veux la paix dans le monde, il faut que cette paix dans le monde, je puisse contribuer à la réaliser là où j'ai une possibilité de le faire. Et on revient toujours à l'estime des autres, à l'amour, à la bienveillance qu'on peut avoir à l'égard des autres. Ben, c'est comme ça qu'on construit ces petites cellules pacifiques, ces petites cellules qui ont pris en charge la bienveillance, mettre les unes à côté des autres qui feront une transformation de la société. Mais cette transformation de la société, ça se fera pas d'un côté on a des tas de proclamations, de l'autre côté on fabrique des armes, de l'autre côté on gaspille, on détruit, etc. Il faut quand même retrouver une forme de cohérence.
Vous ne prenez pas part au mouvement anti-nucléaire, au mouvement féministe, anti-raciste. Vous êtes toujours resté un peu à la marge des mouvements de zadistes, par exemple. Est-ce que vous vous considérez quand même comme un militant ?
Non, militant, ça veut dire une étiquette. Et moi, je ne veux pas d'étiquette. Je ne veux pas qu'on me colle une étiquette de ceci ou de cela. Je suis un être humain, tout simple, tout 50 kilos tout mouillé, qui essaye... De choisir, et je choisis la paix, je choisis la beauté, je choisis le respect de la vie, le respect des autres, c'est ça mon choix. Je veux dire, si l'humanité ne change pas, ben on fera des missiles bio, et c'est pas parce que je mange bio que tout ira bien. C'est bien, mais le faire, mais enfin, c'est pas ça qui va changer les choses, c'est l'être humain qui doit se revisiter lui-même et faire le travail qui lui est nécessaire pour instaurer dans son cœur, lui-même, dans son âme et dans son cœur, ce qu'il veut qu'il y ait dans le monde.
Nous parlions tout à l'heure de René Dumont. Vous avez également compté parmi vos amis, ou en tout cas vos connaissances, Edgar Pisani, l'ancien ministre de l'Agriculture.
Oui.
Il venait chez vous à Montchamp.
Oui, il est venu chez moi, il est venu parce que c'était un homme de bonne volonté. Il a reconnu ses erreurs.
Est-ce que vous avez essayé de le convaincre qu'il fallait changer de modèle ? Est-ce que vous avez essayé de...
Non, je pense que c'est des gens qui ont pris conscience eux-mêmes de leur chemin. Moi, je suis pas là pour convertir les gens. Il y a des gens dans les sphères politiques, dans les sphères partout, qui sont des hommes de bonne volonté. Ils sont au sein d'un système, mais ils ne sont pas forcément complètement dévoués à ce système. Ils ont aussi leur espace de protestation à l'intérieur du système. Et c'est ça qui est intéressant chez un être humain, c'est reconnaître que à des moments, on a fait fausse route. Et en même temps, on a fait fausse route, mais cette expérience d'avoir fait fausse route nous incite à modifier notre pensée, à modifier notre action, surtout quand on a une influence sociale.
Parmi vos amis, vous comptez aussi Nicolas Hulot, qui a été ministre de la Transition écologique. Lui dit qu'il s'est largement inspiré de vos ouvrages, de votre pensée. Est-ce que vous avez essayé de lui parler lorsqu'il était ministre de la Transition écologique ? Est-ce que vous avez essayé de faire passer vos messages ?
Nous avons réalisé un ouvrage avec Nicolas, dans une convergence où on a dialogué, effectivement. Nous sommes des amis. Moi, je garde toujours une grande amitié pour cet homme-là. Et nous avons essayé de nous coaliser, en quelque sorte, pour essayer de participer à une modification. Ça ne veut pas dire qu'on est pur. Moi, j'ai aussi... je ne peux pas dire que je sois dans la pureté. Je roule en bagnole, je m'éclaire à l'électricité atomique, ou je ne sais pas comment on appelle ça, nucléaire. Donc, il ne faut pas jouer les purs. Même si chez nous, dans notre choix, on est resté 13 ans sans l'électricité, dans notre ferme, finalement, on a l'électricité. Voilà. Nous n'avions pas l'électricité, c'était pas un choix. C'était simplement que quand nous avons acheté notre ferme, il y avait pas d'électricité et que c'était très difficile de faire le raccordement électrique pour des raisons multiples.
En 2002, vous parliez alors de décroissance soutenable.
Oui. Disons que ce serait maintenant, je ne prendrais pas ce terme-là. Parce qu'il reste dans ce qu'on appelle les stratégies économiques telles qu'elles ont été adoptées, dans l'architecture qui a été créée autour de ce qu'on appelle le concept d'économie, qui est faux d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien de plus non économique que la société d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui, au contraire, détruit de plus en plus. On est loin de l'économie telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire dans la modération, dans la simplicité, nos besoins les limiter de façon à ce qu'on prélève de moins en moins sur la nature, qu'on n'extermine pas les poissons, les toutes sortes de créatures, etc. Ce qu'on appelle économie, ça n'est pas de l'économie, c'est de la prédation légalisée, c'est tout.
Est-ce que le système capitaliste et l'écologie sont compatibles ?
Je ne pense pas, parce que d'un côté, le capitalisme, par nature, il veut toujours plus, toujours plus. Je ne vois pas comment le capitalisme est cumulatif. Et ça fait des gens hyper riches sur cette planète. Grand bien leur face, mais enfin, je veux dire, ils mourront comme tout le monde. C'est un peu absurde. Mais non, la capitalisation, c'est-à-dire, à partir du moment où on va au-delà de la nécessité, nous sommes en train de confisquer aux autres le bien qui leur revient. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'iniquité. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui accumulent et accumulent, et au détriment de ceux qui ont de moins en moins. Donc ça ne marche pas. C'est-à-dire que nous sommes tous condamnés à disparaître. Et à quoi ça sert d'accumuler, c'est lié simplement à peut-être l'apaisement de l'angoisse. Le toujours plus, c'est l'apaisement de l'angoisse. On dit ensuite la loi de la jungle. Mais non, quand un lion mange une antilope, il digère son antilope, mais il n'a pas de banque d'antilope ni d'entrepôt d'antilope pour vendre aux copains. Et j'ai vu même un film, un documentaire, un lion tranquille voit passer des antilopes, il ne bouge pas. Et les antilopes le sentent, c'est extraordinaire, c'est qu'elles ne se sentent pas en danger. Parce qu'ils n'avaient aucune raison. Ils pourraient se dire, je vais m'en attraper une et comme ça le repas de demain est déjà fait. Non, c'est la loi de la jungle, c'est pas un bon exemple quand on veut parler de la barbarie dans laquelle nous sommes. Non, je pense que simplement, ce que je prêche, et ce qu'on a essayé nous-mêmes de vivre, puisque c'est un témoignage, la modération, la sobriété, la simplicité. Voilà la puissance. La puissance est dans la sobriété, elle n'est pas dans le toujours plus indéfini. Et si on apprend à être sobre, c'est-à-dire au contentement, et en plus on est dans une société du toujours plus sans contentement, si encore on aboutissait à « on est heureux », mais on n'est même pas heureux. Il y a toujours cette machine, c'est ce que je n'ai pas qui est important. Mais j'oublie complètement ce que j'ai. Alors que ce que j'ai, si j'ai à manger, si je suis vêtu, si j'ai un toit sur ma tête, ça c'est, et si je suis soigné quand je suis malade, j'ai ce qu'il faut. Et ça, il faut que la société le prenne en compte comme la priorité des priorités. Aucun être humain ne doit manquer de cela. Aucun. Voilà. Une fois qu'on a réalisé ça, après, le superflu, c'est bien autre chose. Le superflu ne fait pas vivre. C'est ce qui fait vivre, c'est les besoins légitimes que peut avoir une personne humaine à répondre à tous ses besoins vitaux. Ça, il faut que ça soit urgent, 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 bien avant tout le reste. Et quand on a réglé ça, on a vraiment réglé les problèmes dans l'intelligence et dans la réalité. Si on ne règle pas ça, on crée des frustrations, des inégalités. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens frustrés qui rentrent dans la violence, qui finalement rentrent dans la violence et déterminent la violence.
Vous avez tout un vocabulaire à vous. Vous parlez de sobriété heureuse. Avant ça, vous parliez de pauvreté. Vous parlez aussi d'insurrection des consciences. Alors, quels sont les moyens d'action à notre disposition pour procéder à cette insurrection des consciences ?
Aimer déjà ceux qui sont à côté de nous. Les aimer. Et là, je commence. Ça y est. J'ai commencé. Mais si j'ai des grandes théories que je vais manifester, etc., je suis pas sur la bonne voie. La bonne voie, c'est moi. Et c'est pour ça que dans la notion de colibri faire sa part, on intègre aussi le fait que nous avons à assainir nos relations, à mettre de la bienveillance dans nos relations. Et si nous mettons déjà de la bienveillance dans nos relations, ça y est, on commence à changer le monde. Mais on ne changera pas à coup de poing levé dans la rue.
Vous parlez désormais de chaos généralisé. Vous avez beaucoup parlé d'utopie. Est-ce que c'est encore possible de parler d'utopie aujourd'hui ? Est-ce qu'il est encore permis d'espérer ?
On est toujours dans la situation, il est trop tard et il est temps. Bon, alors je peux pas m'apesantir sur il est trop tard, il est trop tard. Bon, si la maison s'est écroulée, c'est trop tard. Mais il est toujours temps, dans la mesure où, tant que nous sommes vivants, Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours la possibilité de modifier notre mode de pensée, de déterminer des actions. On a encore l'espace de détermination de nos actions. Simplement, nous sommes dans un système qui est devenu tellement complexe que c'est l'être humain qui est de plus en plus dépendant d'événements et de courants qu'il ne maîtrise pas. C'est ce que j'ai essayé d'évoquer dès le départ. Donc aujourd'hui, c'est à chacun de réfléchir sur ce qu'il veut de la vie et comment il veut que cette vie s'oriente. Et à ce moment-là, il a quand même un levier très important qui est le suffrage universel qui lui fait désigner telle ou telle personne ou peut-être ne désigner personne par insatisfaction. Je me suis moi-même présenté aux élections présidentielles en 2002. C'était pas par ambition du tout. Moi, je cherchais pas du tout à me présenter aux élections. Donc on m'a poussé à le faire en disant tout l'environnement de gens qui adhéraient à ce que j'essayais de promouvoir avec mes petites forces. L'amour de la vie, l'amour de la nature, l'humanisme, une éducation des enfants qui soit pas stupidement sur la concurrence là, qui domine qui, sur aussi cette posture inadmissible de la subordination du féminin au masculin, sur le ravage que nous faisons à la nature, etc., etc. C'était tout ça qui était réuni en quelque sorte dans mon discours.
Vous dites on m'a poussé, ça veut dire que vous aviez pas envie d'y aller?
Pas du tout. Alors là, quand on m'a dit il faut que tu te présentes, ça m'est tombé comme une tuile sur la tête, parce que je n'ai jamais imaginé, moi, que j'allais rentrer dans la sphère politique. J'étais en insurrection, parce que j'étais totalement opposé à 80% de notre modèle de société, qui avait en fait subordonné l'humain pour exalter le profit, l'argent, exalter toutes ces choses-là, et donc réduit l'être humain à n'être que contingent. Et donc là, cette contingence humaine, je ne l'ai jamais acceptée.
Donc quand vous êtes présenté au présidentiel en 2002, vous pensiez pouvoir faire quelque chose, agir? Vous pensiez pouvoir obtenir quel rôle, quelle responsabilité?
Ce n'était pas sur le plan strictement politique. C'est-à-dire, j'aurais été bien embarrassé d'être élu. Je ne souhaitais pas du tout avoir les 500 signatures. Et on est quand même lancé en pensant qu'on aurait trois signatures d'élus, et puis on en a eu presque 200. Et 200, ça nous paraissait déjà miraculeux, parce que nous, ce que nous proposions, c'était pas si vous votez pour Pierre Rabhi, c'est ceci, cela, c'est que les citoyens puissent dialoguer entre eux. On proposait, voilà pourquoi les femmes sont subordonnées, pourquoi les enfants sont éduqués de telle façon et telle façon, et on a créé, non pas des espèces de trucs, forums politiques et tout ça, on a créé plutôt des espaces de dialogue entre les gens sur des thématiques d'éducation, sur les thématiques les femmes, sur les thématiques la nature, sur les thématiques... C'est plus ça que si vous votez pour Pierre Rabhi, je ferais ci et je ferais ça.
Alors qu'auriez-vous fait si vous aviez été élu?
Si j'avais été élu?
Si vous étiez devenu président de la République?
Peut-être qu'on m'aurait descendu dès le lendemain. Parce que mon programme aurait été tellement à contre-courant, je commencerais par dire, écoutez, réformons l'éducation, apprenons aux enfants, mettons nos enfants proches de la nature, mettons nos enfants proches de la vie, apprenons-leur la vie et non pas la dualité. J'aurais peut-être commencé par là. Le second thème, c'est évidemment comment m'y prendre pour que féminin et masculin soient dans l'équilibre et dans l'égalité et ne soient pas l'une subordonnée à l'autre. Et puis la nature. Bien sûr, la nature, immédiatement, moi j'aurais tout fait pour que, par exemple, l'agriculture écologique soit répandue partout, enseignée dans des lieux d'enseignement agronomique, au lieu d'enseigner, mettons, des unités d'azote et de la chimie, etc., j'aurais immédiatement réformé la formation à l'agriculture en introduisant, évidemment, les méthodes naturelles. Voilà, j'aurais fait ça immédiatement. J'aurais mis des subventions importantes pour que ça soit comme ça. Mis des subventions importantes pour que les enfants ne soient plus éduqués dans le meilleur, le pire et la dualité. Toutes ces choses auraient été le début des réformes. Alors, est-ce qu'on m'aurait laissé faire? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on ne m'aurait pas laissé faire, peut-être que j'aurais été vraiment... mais j'aurais fait ça. l'intérêt des groupes de la pétrochimie, etc., certainement ça ne les arrangerait pas.
Vous parlez beaucoup de l'importance de la transmission. Vous dites souvent qu'il faut non seulement penser à la planète qu'on va laisser à nos enfants, mais aussi à quels enfants on va laisser à notre planète. Quels enfants, vous qui en avez cinq, vous avez voulu laisser au monde?
Ben justement, tous nos enfants, Michel et moi, sont des écolos inconditionnels. C'est-à-dire que si on a réussi à leur transmettre quelque chose, c'est justement le respect de la vie, le respect de la nature. Respect. Jamais aucun de nos enfants ne commettrait une exaction contre la nature. Voilà. En plus, ils sont artistes, ils ont des connaissances, on a des enfants qui ont fait des grandes études, etc., etc. Mais pour autant, ces sentiments de rapport juste avec la vie, à travers ce qu'on pourrait appeler l'écologie, ça, ils l'ont tous. Ils sont tous respectueux de la vie, tous. Et ils ne se portent pas si mal que ça. Parce qu'on a cru, nous, quand on a fait notre choix, on s'est dit, les enfants vont peut-être nous désapprouver. On est dans un lieu isolé, dans un lieu qui est certes beau, mais isolé. Notre préoccupation, c'était, est-ce qu'on les retranche de la société? Et là, il ne faut pas. On ne les a pas retranchés. Il existe des systèmes ou des croyances qui retranchent complètement les enfants en les endoctrinant d'une certaine façon, qui font qu'ils ne peuvent plus être des citoyens de la vie, mais qui sont complètement incarcérés dans une logique et dans un système parfois mystique même, dit mystique ou dit spirituel, ou dit etc. Toutes ces incarcérations-là, non, on n'a jamais voulu, et nos enfants restent ouverts à la vie, mais avec un quant à soi, avec un point de vue, le respect de la vie, avec toutes ces valeurs-là. L'art aussi est inclus dans tout ça.
Donc ils vont reprendre votre combat ?
Moi, c'est pas un combat. Moi, j'en ai marre de cette histoire de combat. On est toujours en train de combattre. Il faut arrêter de combattre. Il faut simplement agir dans le vrai. Et à ce moment-là, il faut absolument. Je peux pas d'un côté dire il faut abolir la dualité parce que le monde est tout le temps duel, 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 duel. On fonctionne que comme ça. Les deux biels de la société. Tu sais, c'est la dualité et la réprobation et donc qui aboutissent à des exactions et on est dans ce système-là, on est prisonnier de tout ça. Je suis pas spécialement gandhien, mais enfin quand Gandhi dit il faut œil dent pour dent, ça fera que des édentés et des aveugles, il a raison, je l'ai déjà dit.
Merci beaucoup Pierre Rabhi, à demain.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pauline Chanu avec Pierre Rabhi. À voix nue, réalisation Christine Robert, prise de son Éric Audra, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.